S'il y a un domaine dans lequel les avancées et découvertes scientifiques peuvent assez facilement faire basculer certains dans le futur, voire dans un fantasme de science-fiction, c'est bien la médecine, et pas n'importe laquelle. Celle qui, en particulier, cherche à comprendre le vieillissement de nos corps et, surtout, comment on pourrait le ralentir afin, pourquoi pas, de devenir immortel. Aux États-Unis, quelques personnes obsédées par la jeunesse éternelle sont devenues des personnalités publiques, suivies par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, comme le richissime Brian Johnson qui, à 48 ans, dépense plus de 2 millions de dollars par an pour faire de lui-même un sujet d'expérimentation scientifique. Son but ? Trouver la formule de vie qui lui permettrait de ne pas vieillir, ou du moins de vieillir moins vite que les autres. Tous les jours, au réveil, à 5h du matin, il gobe des dizaines et des dizaines de compléments alimentaires en gélules avec une boisson protéinée. À 7h, premier petit-déj, à base de brocoli et de chou-fleur. À 9h, deuxième petit-déj, à base de protéines, de myrtilles et de mûres. À 11h, troisième petit-déj, à base de légumes. Si on ajoute une heure de sport, voilà à quoi ressemblent ses matins. Ensuite, il ne mange plus et le soir, il se couche entre 20h30 et 21h. J'imagine que l'après-midi, il vend ses produits, mais c'est pas clair car de temps en temps, il tente des trucs différents. En 2023, par exemple, il s'est fait transfuser du plasma de son fils de 17 ans avant de tenter de rajeunir son pénis avec des ondes de choc. Je ne suis pas sûr que vivre longtemps en suivant sa routine soit quelque chose de particulièrement enviable, sans parler du fait qu'il faille être sacrément riche au départ pour se le permettre, mais sa quête soulève de vraies questions scientifiques. Par exemple, nos corps sont-ils préprogrammés pour vieillir d'une certaine manière plutôt que d'une autre ? Est-il possible de le savoir, de le lire dans nos cellules ? Serait-il vraiment possible de retarder, voire de stopper, l'effet du vieillissement sur nos corps ? Pour en parler, voici mes trois invités.
Bonjour, je suis Camille Chamou, j'ai des spectacles régulièrement à l'affiche que j'écris et que j'interprète. Le dernier s'appelait « Le temps de vivre », donc c'était déjà sur la question du temps. Et celui que je fais maintenant s'appelle « Ça va, ça va ». Et c'est un spectacle que je commence en disant que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, j'étais immortelle. Donc effectivement, la question du temps, de la mortalité, de la finitude et du vieillissement est vraiment une question fondamentale dans mon écriture humoristique.
Bonjour, je m'appelle Isabelle Adair, je suis chercheuse INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Je travaille dans un laboratoire à Toulouse qui s'appelle RESTOR et dont l'objectif est de travailler sur le vieillissement en bonne santé. Dans cet institut, je suis dans une équipe qui s'appelle Metabolink et on essaie de comprendre quels sont les mécanismes qui permettent et qui soutiennent l'énergie d'un individu au cours du temps. En parallèle, je suis très impliquée dans un programme très structurant qui s'appelle l'Institut Hospitalo-Universitaire du Bien Vieillir, dans lequel il y a des cliniciens, des biologistes, des économistes et qui réfléchissent, et dont l'objectif ensemble est de déterminer et identifier des outils innovants, alors ça peut être biologique ou numérique, pour prédire la trajectoire de santé des individus et après intervenir sur ces gens de façon personnalisée.
Bonjour, je suis Lida Gatti-Pardi, je suis aussi chercheuse INSERM à Montpellier, à l'IRMB, l'Institut de médecine régénérative et biothérapie, et l'unité U1183. Et en fait, le grand mystère sur lequel on travaille depuis des années, c'est justement comment rajeunir le cerveau âgé ou comment certaines maladies ou situations peuvent accélérer le vieillissement des jeunes et aussi basé sur les facteurs sanguins.
Camille Chamou, Isabelle Adair et Lida Katsimpardi, bonjour et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en public depuis la Maison de la Radio. Vous écoutez Big Bang et nous allons explorer l'effet du temps sur nos corps.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
Alors dans la petite introduction que j'ai faite de Brian Johnson, qui était peut-être un petit peu ironique, il parle à un moment de se faire transfuser le sang de son fils, enfin il l'a fait d'ailleurs, pour tenter de rajeunir lui-même. Lida Katsimpardi, le sang a des propriétés particulières par rapport à la jeunesse qu'on peut éventuellement évaluer et comprendre ?
Oui, justement. Donc, en fait, nous avons démontré, nous, c'est-à-dire notre équipe et aussi d'autres équipes aux États-Unis à l'époque, donc il y a plus de 10 ans maintenant, nous avons démontré qu'en fait, en infusant du sang jeune chez des modèles animaux âgés, on peut régénérer et rajeunir le cerveau âgé. Et en fait, avec ça, on a trouvé qu'il y a des propriétés dans le sang, donc des facteurs sanguins, des protéines, des molécules qui baignent dans le sang, qui ont ce genre de capacité. Et c'est donc le sang qui, en fait, amène avec lui toutes ces propriétés.
Ça signifie quoi, rajeunir un cerveau ?
Ça, c'est une très bonne question. Oui, ça dépend de ce qu'on a comme marqueur, disons, de rajeunissement. Mais vous avez raison. Donc, en fait, nous, on regarde les cellules souches neurales, par exemple, comme d'autres marqueurs. Nous savons que le cerveau perd ses cellules souches neurales. Ce sont des cellules qui donnent naissance à des neurones. Donc, c'est les cellules qui donnent cette capacité au cerveau à pouvoir réfléchir, en fait, avoir de la mémoire.
Les cellules souches, il y a plusieurs types de cellules dans notre corps, c'est ça ? Et les cellules souches sont celles qui peuvent devenir absolument n'importe quel autre type de cellule.
Oui, les cellules souches embryonnaires. Les cellules souches neurales sont des cellules qui peuvent devenir le cerveau, différents types de cerveau, en fait, enfin, de cellules de cerveau, donc très spécifiques au cerveau. Et ce sont des cellules qu'on perd, même nous, les humains, avec l'âge. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir les restimuler à n'importe quel âge, en fait, pour pouvoir redonner cette capacité à restaurer la mémoire et d'autres fonctions cérébrales.
Et vous avez trouvé un lien entre ces cellules souches-là et leur régénérescence, d'une certaine manière, et
oui,
ce qui se passe dans le sang.
Oui. Nous avons trouvé que donc, le sang jeune a des molécules qui peuvent stimuler ces cellules souches à redevenir des nouveaux neurones. Et non seulement ils redeviennent des nouveaux neurones, mais en fait, ils ont des capacités, ces neurones, à, disons, ils sont plus jeunes que les neurones qui existent dans le cerveau âgé. Donc en fait, c'est vraiment une régénération, un rajeunissement du cerveau. Et on a vu aussi que le système vasculaire du cerveau régénère. Donc on a des vaisseaux qui ressemblent maintenant à des vaisseaux jeunes, donc dans un cerveau âgé, et un flux sanguin qui augmente. Donc vraiment, quand on fait des IRM de cerveau, on voit ce changement de flux sanguin dans le cerveau. Donc c'est vraiment non seulement des cellules qu'on compte, des points qu'on compte sur une image, mais on voit un changement fonctionnel. Donc il y a vraiment un énorme potentiel avec les facteurs sanguins.
Et ça, pour l'instant, on a de lien pour les régénérer, ces cellules souches neuronales, qu'avec le plasma d'être plus jeune ?
Non, pas forcément. Nous avons des bonnes nouvelles.
Sinon, chers amis jeunes qui écoutaient, méfiez-vous des gens qui vous regardent bizarrement.
Je sais. Non, mais justement, la transfusion de sang, ça ne marche pas forcément. Parce qu'il faut, c'est un processus continu, donc on ne peut pas juste transfuser une fois et c'est fini. Quoi. C'est quelque chose qui doit se passer tout le temps. Mais une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, avec l'exercice, le sport, on peut stimuler les cellules souches neurales et d'autres fonctions. Dans le cerveau, il n'y a pas que les cellules souches neurales. Mais le sport a vraiment un effet très, très bénéfique, ainsi que l'alimentation et la restriction calorique. Donc, un régime pauvre en calories et fort en éléments nutritifs est très bon pour justement régénérer les cellules souches neurales.
Donc en gros, si on fait du sport, qu'on ne mange pas et qu'on se transfuse du sang de jeune...
on est super mal.
On reste jeune assez longtemps, c'est ça. Le sang, c'est quelque chose que vous étudiez d'un point de vue encore plus global, il me semble, dans votre laboratoire, Isabelle Adair.
Oui, alors nous, on a une vision assez globale de l'individu, du vieillissement en bonne santé, dans le laboratoire et dans tout l'IHU dont je vous ai parlé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, un enfant qui naît, il va vivre jusqu'à 90 ans. Et malheureusement, la bonne santé, il sera en bonne santé jusqu'à 65 ans. Donc il va passer entre 20 et 25 ans en mauvaise santé. Donc pour considérer le vieillissement et la trajectoire de santé, c'est beaucoup plus compliqué qu'une cellule, qu'un organite. Effectivement, on a placé depuis une quinzaine d'années des piliers du vieillissement qui sont très focus. Sauf qu'on se rend compte qu'il faut intégrer l'ensemble de ces piliers pour répondre à cette question. Et nous, au laboratoire, c'est ce qu'on fait. Et notamment, on parlait du sang. Nous, on travaille sur le métabolisme. Donc, j'expliquais vite fait en introduction, mon introduction. Le métabolisme, c'est très simple. C'est l'ensemble des mécanismes de synthèse et de dégradation qui permettent de soutenir l'énergie de l'individu. Et l'énergie, c'est la vie. Donc, quelqu'un qui dit « j'ai plus d'énergie », c'est très mauvais signe. C'est vraiment important à comprendre. Et cette énergie, on peut la repérer de plein de façons différentes. Et nous, on a fait le pari. Alors, on a monté une cohorte d'individus de 20 à 100 ans, parce qu'en fait, vous parliez de gériatrie, mais il faut travailler sur les très jeunes pour comprendre pourquoi les trajectoires sont modifiées. Parce qu'en fait, la modification de trajectoire, elle est due aussi à des stress psychosociaux, à des infections, à des tas d'événements, des tas de stress qu'il faut suivre au long de la vie. Et en fait, c'est ce qu'on fait sur cette cohorte, on les suit tous les ans. Les individus, ils sont volontaires, il y en a plus de 1000, et on les phénotype complètement sur la santé. La santé selon l'Organisation Mondiale de la Santé, qui est quoi ? Ben, il faut suivre 5 fonctions. Donc, on parle de fonctions cliniques. La locomotion, la cognition, on parlait du cerveau, la sensorialité, donc l'audition, la vision, le psychosocial, parce qu'on en parle très peu, mais c'est très important, le psychosocial. Et donc, j'ai dit locomotion, motricité, sensorialité, le psy, et la vitalité. Et la vitalité, c'est l'énergie. Et en fait, pour essayer de trouver des réponses et identifier des nouveaux marqueurs, puisque c'est ça dont on parle, il faut étudier tout ça. Donc ça, c'est un phénotypage clinique. Malheureusement, quand on a des défauts, c'est un peu trop tard. Donc nous, on pense, on fait le pari, qu'il y a des éléments moléculaires très précoces, dès l'âge de 30 ans, et c'est pour ça qu'on a monté cette cohorte à partir de 20 ans, qu'on pourrait repérer. Et la littérature mondiale et nous émettent l'hypothèse que, en fait, le métabolisme serait le chef d'orchestre très tôt. En fait, le métabolisme, comme c'est l'énergie et la vie, il y a plein de mécanismes qui peuvent se compenser. Donc, pendant un petit moment, ça va se compenser. On va bien, on est robuste, on est en pleine forme. Puis un jour, c'est la dégringolade. Et nous, on essaie de trouver justement qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui va pas, en fait, très tôt. Et ça, on le fait au travers du sang. Donc, on a prélevé tous ces individus, on les prélève chaque année, et on étudie ces marqueurs du métabolisme. Il y en a plein, il y en a beaucoup, et quand on parle de métabolisme, on ne parle pas uniquement de la mitochondrie, on parle d'un ensemble, et on regarde, et c'est tout le travail qu'on fait, s'il y a des signatures particulières, par tranche d'âge, et par sexe aussi, parce qu'en fonction du sexe, ben, on n'est pas du tout similaire au niveau du métabolisme. Donc ce sang est très important parce qu'il va nous permettre d'identifier un biomarqueur pour repérer les individus lors de la trajectoire de santé. Donc ce biomarqueur, il est essentiel.
Dans un but potentiellement de les aider à vieillir mieux.
Exactement.
Et d'empêcher peut-être certaines pathologies de se déclarer.
De stratifier et d'identifier les patients, les volontaires ou les gens à risque.
C'est une émission de vampires, en fait. On parle que de sang, en fait. Tout est dans le sang, effectivement.
N'est-ce pas ?
On désire se régénérer le sang. Non, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas ce que c'est que la mitochondrie, mais sinon,
je n'ai pas rebondi dessus tout de suite parce qu'on y reviendra tout à l'heure.
J'ai essayé de le trouver en racine grecque, mais je n'ai pas...
À la fin de l'émission, vous allez ne parler que de la mitochondrie.
Ah voilà.
Ah, c'est sûr.
Ok.
Mais arrêtez de regarder les jeunes qui sont dans le public avec ces yeux de Dracula pour vous en servir. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que notre vieillissement est préprogrammé dans nos cellules, ou est-ce qu'une énorme partie de ce qui déclenche peut-être des vieillissements est liée à nos interactions, soit avec l'environnement, soit socialement? Est-ce qu'on peut répondre à ce genre de choses, peut-être même au niveau du cerveau, Lida Katsimpardi?
Oui, en fait, les deux sont vrais. Et donc, lequel va être plus vrai que l'autre va dépendre de la vie de chacun, en fait, de ce qui se passe. Donc oui, il y a une partie qui est préprogrammée dans nos cellules, mais il y a aussi, moi je pense personnellement que le plus fort, disons, impact, c'est comment on vit, ce qu'on subit, ce qu'on a dans notre environnement, ce qu'on mange, comment on est, comment on aime, comment on vit, enfin tout ça, la vie quotidienne. Ça s'appelle aussi l'exposome, plus scientifiquement. Et donc, tous ces facteurs qui vont changer notre physiologie. Et par exemple, dans le cerveau, nous savons... Enfin, nous, on travaille plus spécifiquement sur le fait que la dépression ou le stress chronique peuvent amener un vieillissement accéléré chez les jeunes. Enfin, chez un cerveau qui n'est pas forcément âgé, pas encore.
Double peine, donc.
Oui.
On a à la fois la dépression et des conséquences.
Exactement. Et donc, cet état, par exemple, de stress chronique fait que la cellule, même si elle n'est pas préprogrammée à être vieille ou à vieillir rapidement, va vieillir plus rapidement qu'un cerveau qui n'est pas en dépression ou en stress chronique, quoi.
Au niveau de la cellule, du coup, ça signifie quoi, vieillir ? quand on regarde une cellule. Est-ce qu'on peut le voir au microscope qu'une cellule est plus vieille qu'une autre ?
Oui, on peut le voir, enfin, on peut voir certaines choses, un peu la morphologie. Par exemple, au niveau des vaisseaux sanguins, on peut vraiment voir les vaisseaux qui sont plus rétrécis, plus mauvais, enfin, un peu plus... pas très beau.
Après, les vaisseaux aussi, ils fuient, ils ne fonctionnent pas bien.
Exactement.
Il y a une fonction qui est altérée.
Oui.
Et du coup, il y a la morphologie qui est très très importante et notamment au labo, il y a vraiment des études qui sont portées sur la morphologie à la fois des cellules et des organites, on en reparlera après sûrement. C'est vraiment très important ce concept de est-ce qu'on peut voir les choses. Et à l'heure actuelle, on a des outils technologiques fantastiques. C'est ça qui donne le vertige. Parce qu'on a beaucoup beaucoup de technologies, on va très très loin et du coup on a beaucoup de données. Donc, pour faire la part des choses, enfin, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Lida, mais c'est parce que suivant l'imagerie, on va aller très, très profond. Donc, effectivement, on voit multi-échelle tout vieillir. Ça, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça, en fait ? Voilà. Donc, il faut bien faire des études calées, bien calibrées. Parce que l'exemple que vous donniez de ce monsieur, il a pris certainement un peu de ci, un peu de ça. Nous, en tant que scientifiques, c'est compliqué d'avoir un avis là-dessus.
On parle de Brian Johnson,
exactement,
dont je parlais au début de l'émission.
C'est compliqué parce que nous, en tant que scientifiques, tout est vraiment contrôlé. La cohorte dont je vous parle, c'est vraiment... mais tout est sous contrôle absolu pour avoir des statistiques suffisamment précises. Et donc, tout ce qu'on sent... c'est notre métier hein, là, de sentir quelque chose, d'avoir une intuition, mais après il faut vraiment le vérifier. Et donc les modifications dont parle l'IDA cellulaire, oui, la fonction aussi, mais on voit d'énormes choses encore plus maintenant grâce à cette technologie qui est incroyable. Donc on va aller, je pense qu'on est dans une ère incroyable, on vit un truc de dingue là.
Mais si vous me mettiez moi sous les yeux une cellule jeune et une cellule vieille grossie au microscope, je verrais la différence entre les deux?
Je pense.
Il y aurait des éléments qui manqueraient, des éléments
en tout cas, il y a des éléments
plus
d'intelligence artificielle qui sont capables
qui
de repérer.
Ça.
Clairement.
Ouais.
Clairement.
Camille Chamou, ça vous donne envie d'être immortelle, de changer toutes les cellules de vos corps ?
Non, j'ai l'impression qu'elles ne sont pas si sûres que ça, qu'il y a une grosse différence entre une cellule vieille et une cellule jeune, surtout. Non, mais par contre, ce qui est hyper frappant, c'est que l'étude dont vous parlez, là, avec cette cohorte, ça me fait penser à cette étude qui a eu... c'était à Harvard, je crois que ça a été initié pendant 90 ans. Là, on est à la 92e ou 13e année sur « Est-ce que les gens sont heureux ?» menée sur 800 hommes. Et c'était que des hommes, parce qu'évidemment, quand ils ont lancé l'étude, c'était encore sacrément misogyne, la science. Et maintenant, ça change, la preuve.
Ça l'est toujours.
Ça l'est toujours, mais ça change, oui, en tout cas à France Inter. Et effectivement, c'est 800 hommes dont il en reste, je crois, 40 maintenant. Parce que bon, bah, il faut être quand même quasi centenaire pour être toujours dans l'étude. Et bah, les marqueurs de leur bonheur, donc là, c'était une étude sur le bonheur, c'est encore autre chose, mais c'était la santé, l'entourage et la chose qu'ils faisaient, enfin l'élément qu'ils essayent le substrat qu'ils essayent auquel ils essayent d'arriver, c'est qu'est-ce qui permet de rester en vie longtemps et heureux. Et il y avait effectivement, c'est les mêmes trucs, l'alimentation, le sport et deux ou trois bons potes.
Ah non, mais
non,
ça
mais c'est quand même génial. C'était même pas genre un amour ou je sais pas quoi. C'était
non,
deux ou trois bons potes,
vite,
je l'ai gardé moi dans mon spectacle, parce que ça m'a... Oui, voilà, vieillissement accéléré, l'amour. Mais deux ou trois, enfin, relations longues et durables, il disait pas bons potes, mais relations longues et durables, que ça jouait sur la longévité d'un individu.
En fait, quand on regarde les populations qui sont très vieilles dans le monde, elles sont pas forcément au même endroit. Donc déjà, la géographie, c'est pas forcément le point. On a des Japonais, on a des Crétois, des Italiens. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ben, la nutrition, ils mangent peu. Ils sont entourés socialement et ils ont une utilité. En fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on fait là dans notre pays. Les gens, l'utilité des personnes âgées. C'est très important qu'ils soient utiles. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ça. C'est vraiment de se sentir utile. Quand on a 90 ans, déjà, c'est pas, on a un âge chronologique de 90 ans, mais s'il faut l'âge biologique, il est de 70 ans, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ça, c'est vraiment quelque chose, un domaine de recherche énorme. Trouver l'âge physiologique ou biologique des gens, en fait, c'est ça la clé. Et bien, justement, cette étude dont vous parlez, ça recoupe beaucoup avec vraiment les items hyper importants, la nutrition. Mais la nutrition, ben, qu'est-ce que c'est? C'est après le métabolisme, hein, qui contrôle tout ça.
Il y a une jeune femme sur Instagram qui s'appelle Mel et qui a un compte qui s'appelle Mel et Fernande où elle est avec son arrière-grand-mère. Et son arrière-grand-mère, depuis qu'elle la filme et qu'elle lui pose des questions, elle disait l'autre jour, mon arrière-grand-mère est plus jeune que ma grand-mère. Parce qu'en fait, elle la sollicite tout le temps, elle lui pose questions de société, de machin, sur l'amour, l'amitié, la vie, le boulot. Et en fait, l'arrière-grand-mère rajeunit à vue d'œil, on dirait vraiment. Enfin, le film.
C'est vachement intéressant, cette réversion possible.
C'est fou.
Alors, on sait quand même qu'il y a un stade où on va devenir complètement dépendant.
Non.
pas du tout.
Passons à une autre question. Ça nous intéresse pas. Nous, on reste que dans des trucs. Désolée, hein, pardon. Mais non, mais la science, ça nous intéresse si c'est sympa.
Les éléments. Donc, il faut vraiment trouver cette fenêtre biologiquement. Vraiment, c'est très important. Pour vraiment cette bonne santé, la prolonger un max. Donc, avec trouver l'âge physiologique, hein, déjà, les marqueurs. Et aussi le psychosocial, mais c'est fondamental. C'est le problème, c'est qu'on a voulu séparer les domaines parce que c'était plus facile. Le vieillissement, c'est hyper complexe, hein, comme beaucoup de thèmes en biologie. Donc, pendant 50 ans ou au-delà, on a séparé les disciplines. Mais en fait, on se rend compte que c'est pas possible.
Je pense que Camille Chamou a besoin de se remettre de ce qu'elle vient d'entendre. Du coup, nous allons faire une petite pause musicale avec Neil Young, Old Man.
I'm
Nous sommes toujours en compagnie de mes invités, la comédienne et humoriste Camille Chamou, les biologistes Isabelle Adair et Lida Katsimpardi, et du public du studio 621. Nous nous interrogeons sur les effets du temps sur notre corps.
Big Bang. Christophe Galfard sur France Inter.
On a mentionné la mitochondrie tout à l'heure, je le laissais un peu de côté pour ne pas répondre tout de suite et ne pas gâcher ce qui allait arriver, car il s'agit d'énergie. Alors je vous propose de plonger un instant à l'intérieur de notre corps. Notre corps est formé de plusieurs dizaines de milliards de cellules, et la plupart de ces cellules ont des petits compartiments à l'intérieur d'elles-mêmes. Un d'entre eux s'appelle la mitochondrie. En moyenne, il y en a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers par cellule dans notre corps. Et ces petites mitochondries, figurez-vous que nous les héritons tous et toutes de notre mère. Aucune d'entre elles ne vient de notre père, c'est notre mère qui nous les fournit. Et ces mitochondries sont la base de l'utilisation de l'énergie dans nos corps. Je crois que c'est un des sujets qui vous fascine totalement, Isabelle Adair, et que c'est même une des petites poches de nos cellules qui est la base de vos travaux.
La mitochondrie, effectivement, c'est l'usine à énergie. Historiquement, elle a été décrite comme étant l'usine à énergie de la cellule et par voie de conséquence de l'ensemble de l'organisme. Or, ce qu'il y a de très intéressant avec la mitochondrie, c'est qu'elle ne fait pas que ça. Donc effectivement, elle permet de générer l'ATP. Donc l'ATP, c'est quoi? C'est l'adénosine triphosphate. Et qu'est-ce qui fait que ça donne de l'énergie?
Camille Chamou acquiesce.
En fait, c'est une toute petite molécule qui est hyper importante, parce que quand elle est cassée, hydrolysée, en fait, il y a des liaisons qui fournissent l'énergie. Donc c'est comme ça que ça marche. Mais la mitochondrie, et c'est ça qui est fascinant, elle contrôle aussi des tas d'autres fonctions importantes, comme l'inflammation. On sait que l'inflammation est très importante au cours de l'âge. Elle contrôle tout ce qui est devenir métabolique, parce qu'elle est quand même au cœur de plein de programmes métaboliques. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est que beaucoup d'équipes dans le monde l'étudient, parce que ça crée beaucoup de fantasmes. Donc, il y a des gens qui imaginent des transfusions de mitochondries, il y a des tas de choses.
Pour avoir de l'énergie, justement.
Pour avoir de l'énergie, ce qu'il faut savoir, c'est que la mitochondrie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a de l'ADN dans la mitochondrie, donc, qui se mute, donc il y a quand même beaucoup de particularités. Et au laboratoire, il y a un chercheur dans mon équipe qui a fait le pari fou que la structure, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait d'image, la structure à l'échelle de l'image d'une mitochondrie pourrait révéler, en tout cas tous ces paramètres de la structure, pourrait révéler un état de santé.
Et ça, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure par rapport à la vitalité, notamment. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien direct avec les mitochondries?
Justement, c'est des projets qui vraiment sont en cours. Ça, il y a aussi tout le travail qu'on fait sur d'autres cellules. On a beaucoup parlé des cellules de Lida, mais il y a des cellules qui s'appellent des fibroblastes. On en a dans tous les organes. Les fibroblastes, ils sont partout. Ils sont très intéressants parce qu'ils sont capables de contrôler l'inflammation, le métabolisme. En fait, c'est des acteurs un peu tout-terrain. Et ils sont aussi capable de devenir d'autres types cellulaires, plein d'autres types cellulaires.
Comme les cellules souches qui peuvent se transformer?
Alors, c'est pas des cellules souches dans la vraie définition, mais elles ressemblent beaucoup à ce que l'on appelle des cellules stromales mésenchymateuses ou cellules souches adultes. Et ces cellules, on a travaillé dessus au laboratoire, et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça, parce qu'il y a un lien avec l'énergie. On a fait des biopsies sur les gens de toute la cohorte, là, dont je parlais tout à l'heure. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, ces fibroblastes étaient le reflet, étaient le miroir, alors qu'on les mettait en culture, dans des boîtes, hein, étaient le reflet de la santé des individus. Et qu'est-ce qui n'allait pas dans ces fibroblastes quand on vieillissait en mauvaise santé? Eh bien, c'était le métabolisme.
Alors là, en l'occurrence, le métabolisme signifie?
Eh bien alors, on regardait la respiration mitochondriale.
Parce que la façon dont les mitochondries,
respirent. On dit qu'elles respirent. Voilà, donc c'est vrai que la mitochondrie, c'est un champ d'investigation énorme. Il y a des nouveaux travaux hyper sexy là, qui sont dans le four, vraiment. Et c'est vrai qu'on a hâte d'aller encore un peu plus loin pour voir déjà si cette structure mitochondriale, parce que ça serait un pas énorme. Si juste la structure, ça voudrait dire que...
Oui, mais ça veut dire que c'est déterministe. Ça veut dire qu'on voit
tout.
L'état de santé de
quelqu'un. Ah, mais à un moment donné. À un moment donné.
Ah oui, mais qu'on peut agir dessus.
Eh bien sûr. Oui. Non, en fait, pour nous, le vieillissement, c'est une conséquence de... Voilà. On est tous d'accord. C'est l'exposome, c'est, je veux dire, c'est pas les gènes uniquement, enfin, c'est pas possible. D'ailleurs, il y a des
l'exposome,
études sur des...
L'exposome, on disait tout à l'heure, c'est l'ensemble des...
C'est tout l'écosystème.
L'impact de notre
les infections, les grossesses, les stress psychosociaux, la malnutrition, l'overnutrition, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est si compliqué. Mais par contre, là, quand je dis on pourrait voir cette image, c'est dans un outil de biomarqueur. Ça serait dans un objectif de biomarqueur. Mmh. On pourrait dire, cette personne, c'est comme nous, nos cellules qu'on a identifiées comme étant le miroir de la santé. Donc là, c'est ça qui change, en fait, dans la biologie du vieillissement. On commence à avoir des biomarqueurs très intéressants pour visualiser les individus à risque. Et ça, c'est très intéressant. C'est l'ère de la médecine personnalisée. Mmh.
Lida Katsimpardi, il y a des mitochondries, donc des petites usines, notamment à énergie, dans les neurones aussi?
Oui, mais je voulais dire un autre truc, en fait, sur ce que Isabelle vient de dire. Non, parce que ça colle sur la médecine personnalisée, parce qu'il y a des travaux récents qui montrent qu'en fait, on peut regarder les biomarqueurs de chaque organe et voir chez un humain qui est en bonne santé, quel est l'organe qui vieillit le plus rapidement. Et en fait, ça peut donner une prédiction pour l'avenir. C'était des études longitudinales, donc on a vu que la prédiction était correcte à la fin, plus tard. Et en fait, quand un individu avait par exemple un super ager, ça s'appelle un super vieillissant.
Qui vieillissait bien ou mal?
Non, mal.
Ok.
Non, mais dans le corps entier, on a par exemple quelqu'un où on voit que le cerveau vieillit plus rapidement que le reste du corps pour son âge. Cette personne, finalement, a développé une maladie comme Alzheimer ou une autre maladie de neurodégénération. Pareil pour le cœur, pareil pour différents organes. Ça a été prouvé, en fait, que finalement, on peut voir à l'âge, je sais pas, de 25-30 ans, si on a un organe qui vieillit plus vite que le reste, pour savoir quelle pourrait être la maladie qu'on pourrait avoir dans l'avenir. Et comme ça, on peut agir dessus. Donc, en fait, je trouve ça, en fonction de tout ce qu'Isabelle vient de dire... Vraiment, nous sommes dans une ère de médecine personnalisée et même de prévention, en fait.
En fait,
c'est ça qui est formidable en ce moment.
Oui, on vit, en tant que scientifique, on vit de la biologie du vieillissement. On vit vraiment grâce à l'avènement technologique, mais aussi numérique, intelligence artificielle, parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de données. Mmh. Et on a beaucoup de chance. Parce qu'on peut aller vraiment, on peut pousser nos hypothèses. Et par exemple, au laboratoire, on a montré, c'est toujours dans cet esprit de biomarqueur, parce que nous, notre grande aide, c'était vraiment de dire, bon, il nous faut cet âge physiologique. Vraiment, c'est hyper important qu'on ait un âge physiologique des individus. On a pris une cohorte américaine de 60 000 individus qui étaient suivis sur des années grâce à parce que je ne l'ai pas dit, mais on est aussi la science de la pluridisciplinarité. Notre époque, on travaille avec toutes les disciplines. Et ça, c'est merveilleux. Et grâce à un consortium avec des informaticiens de haut vol qui font de l'IA vraiment très intéressante, on a pu montrer au laboratoire que chez ces Américains, on avait tout... on avait la mortalité parce qu'elle a été suivie de nombreuses... Ces gens ont été suivis de nombreuses années. On a pu montrer qu'une signature... de métabolique, donc de dosage assez classique fait dans les hôpitaux, la CRP, la glycémie, enfin des choses comme ça.
C'est quoi ça? C'est des choses qu'on voit dans le sang?
Oui, exactement. On fait un prélèvement sanguin et souvent on fait faire des dosages assez classiques à l'hôpital. Et dans cette cohorte, ils les avaient fait, ces dosages classiques qui révèlent le métabolisme. Mais on a montré qu'on pouvait prédire l'âge physiologique de ces gens, ou biologique. Nous, on dit physiologique parce qu'on est physiologiste, mais c'est biologique et c'est pareil. Et on a pu montrer qu'en fait, il y avait vraiment une prédiction de la mortalité et des comorbidités aussi, très tôt, grâce à 26 paramètres qui signaient le métabolisme. Donc ça, c'est quand même très nouveau. À la fois les organes, on a des indicateurs. À la fois dans le sang, on a des indicateurs. Alors, il reste évidemment plein de choses à faire. Mais en tant que prédiction, on a des outils très intéressants.
Même pour des maladies comme Alzheimer et ce genre de maladies du cerveau?
On y travaille.
Oui, j'imagine.
Oui, oui. C'est, enfin, pour Alzheimer, il y a beaucoup. Oui, c'est, il y a une combinaison de biomarqueurs et aussi beaucoup de, d'imagerie du cerveau, en fait, qui est développée depuis les années, les dernières décennies, de plus en plus. Et donc, une combinaison de ce type de, d'outils, en fait, nous donne vraiment des. Enfin, maintenant, des diagnostics même rapides, sans de, enfin, un test sanguin de 3 minutes, des choses comme ça, qui peuvent nous aider à diagnostiquer des maladies neurodégénératives.
Est-ce alors que ça ne va pas faire flipper tout le monde de savoir ça et de, tout le monde va se lancer pour faire une prise de sang immédiatement
ça, c'est...
et vérifier les choses.
Ça, c'est une autre question.
Moi, je pense qu'on est arrivé au bout du curatif parce qu'on se rend bien compte que les gens, ils arrivent à 70 ans, 80 ans, ils ont 25 comprimés dans leur, je sais pas comment ça s'appelle, pilulier, là. Et ça soigne rien, en fait. Ça complique même les choses. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à faire de la prédiction. C'est essentiel. Et cette prédiction, alors il y a plein d'outils. Nous, pour en revenir à tout ce qui est Alzheimer, nous, au laboratoire, on a travaillé sur une cohorte et on a pu prédire, avant tout signe de déclin cognitif, chez des gens qui avaient du bêta-amyloïde, qui est une... Bon, c'est pas parce qu'on a du bêta-amyloïde qu'on va décliner, mais bon, c'est un...
Ah, ouf.
Ah non, 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 parce que...
moi qui me fais quand même analyser le bêta-amyloïde.
Et du coup, on a montré qu'avant tout signe de déclin cognitif, on pouvait isoler une signature métabolique. Alors, quand je parle de métabolique, c'est très simple. C'est des petites molécules, des lipides ou des métabolites polaires qui sont glucose, lactate, vous connaissez certainement ces mots. Et ça, on peut les doser. Et en fait, on a pu prédire sur une cohorte d'humains, 5 ans avant tout signe de déclin cognitif, ceux qui allaient décliner.
Et cette prédiction, est-ce qu'elle permet une thérapeutique potentielle ?
Alors, cette prédiction, elle ne sert pas à la thérapeutique. Elle sert...
Parce que
repérer,
si c'est juste pour savoir...
Ouais. Non, pas que. Parce qu'elle sert à repérer les gens à risque. Et là, on est dans l'avènement des thérapeutiques justement contre Alzheimer. Il y a plein de molécules qui sortent. Ben, si quelqu'un, on lui prédit que dans les 5 ans à venir, il ne va pas décliner. C'est thérapeutique, on sait qu'il y a des effets secondaires terribles. Ben, on ne va pas lui donner dans une première intention. Elles sont très chères, ces thérapeutiques. Donc ça sert à ça, c'est stratifier les individus pour identifier ce qu'il faut vraiment privilégier à suivre en particulier.
Parce qu'il y a quand même une vision légèrement cauchemardesque de cet Américain dont on parlait au début, qui se fait regarder par 40 médecins tous les jours, toute l'année, toute la vie, et afin de rester plus jeune, et en faisant des études permanentes de son corps en entier. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'une prise... D'ailleurs, on va faire une prise de sang au public hein, en sortant pour, quand même, pour voir tout ça. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que potentiellement, il suffirait de temps en temps de regarder l'état de notre sang pour détecter des choses tant qu'on est jeune. Et quand on est vieux, c'est un peu trop tard, c'est ça ?
Non, justement, on aura décalé ces 25 ans dont je vous parlais tout à l'heure. On les aura décalés, donc ça sera plus tard déjà. Et là, on est sur des prises de sang, mais avec l'avènement, il y a des outils numériques aussi. Pour le suivi, on peut maintenant mesurer des tas de choses avec une montre. On n'est pas forcément sur... Justement, tout le travail, il est là. Nous, on est très en amont. On est là pour identifier des marqueurs. Et après, ben, il faut trouver des solutions pour pouvoir les détecter facilement sans que ce soit invasif.
Et une fois qu'on a compris les mécanismes,
exactement,
on peut éventuellement,
exactement,
partir sur de la thérapeutique. Bien, je vous propose d'aller voir ce que la vie nous réserve avec Feu Chatterton.
Que les gens d'ici pensent, s'il n'est pas partout la même heure, il y a peut-être une chance que l'herbe soit plus verte ailleurs. Souvent tu attends la nuit quand plus rien ne fait mal et tu rêves que tu t'enfuis à la nage par le canal. Tu rêves d'un grand pays, d'une vie qui enivre, comme celle que tu lis dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve. Ce que la vie nous réserve. N'ayons peur de rien. We're gonna make it. d'envie d'aller voir par toi-même faire tes preuves. Et si c'était la mer à boire, eh bien que la mer t'abreuve. Le ciel sera toujours bas à ceux qui vivent sans courage. Tu ne les écoutes pas quand ils disent ce n'est pas de ton âge. Et tu vas vers ce pays, vers cette vie qui enivre, comme celle que tu lis le soir dans les pages des livres. Il est temps de vivre. Allons voir ce que la vie nous réserve.
Nous sommes toujours avec mes invités, la comédienne et humoriste Camille Chamou, les biologistes Isabelle Adair et Lida Katsimpardi, et le public du studio 621 qui vient de nous donner quelques petites questions.
France Inter. Christophe Galfard. Big Bang.
Nous allons commencer par la question de Gilles. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour. Moi, je voudrais savoir quelle est la place de l'intelligence artificielle dans vos recherches.
Ça, c'est une super question parce
Isabelle
que
Adair.
Le laboratoire dans lequel je suis, comme je disais, on est vraiment les années de la pluridisciplinarité. Et dans notre laboratoire, on a des informaticiens qui sont vraiment experts en intelligence artificielle. Pourquoi on a besoin d'eux? Parce que, comme je le disais juste avant, les technologies sont sans limite. Vraiment. On a énormément de données. Quand j'ai fait mon doctorat et maintenant, c'est vraiment ce qui a changé. Et le cerveau humain tout seul, on ne peut pas. Et donc, nous, au quotidien, moi par exemple, j'encadre deux doctorants en intelligence, enfin je co-encadre avec évidemment un informaticien dont c'est l'expertise, sur nos problèmes de santé, on encadre deux doctorants en intelligence artificielle pour la prédiction de la trajectoire de santé. Et l'intelligence artificielle maintenant c'est partout, même en expérimental, même dans les technologies, il y a des programmes d'intelligence artificielle au laboratoire. Donc c'est vraiment notre quotidien.
Nous avons une deuxième question d'Odile.
Merci pour ce débat passionnant. Ma question est la suivante. Quel est l'impact d'une grossesse, ou de plusieurs grossesses, sur le vieillissement, et notamment sur le vieillissement du cerveau?
Énorme. Si je peux être... Énorme. Un impact non négligeable. Pardon.
Ça, c'est la réponse de
Camille. Viscérale.
Et si je peux ajouter, parce que j'ai une fille qui a accouché il y a exactement une semaine aujourd'hui.
Bravo.
Quel est l'impact de l'allaitement sur le vieillissement du cerveau de l'enfant et de la maman?
Lida, si jamais c'est possible. Est-ce que vous avez des réponses?
Le vieillissement du cerveau. Oui. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, la grossesse, c'est un moment magnifique de l'organisme où il y a tout qui change. Enfin, il y a plusieurs choses qui se passent. D'une part, la prolactine et d'autres hormones qui changent dans le corps de la femme ont un effet bénéfique pour le cerveau de la femme, donc c'est très bien. Et il y a une augmentation de la neurogenèse. Et donc, on parlait tout à l'heure des cellules souches neurales. Donc, les cellules souches neurales vont se multiplier. Il y aura des nouveaux neurones, meilleure cognition. Donc, ça, c'est des effets à court terme, en fait. Et d'autre part, le sang, enfin, le fait d'être enceinte, le bébé, le fœtus, sécrète d'autres facteurs qui sont aussi bénéfiques, donc rajeunissants pour le corps et aussi pour le cerveau de la maman. Donc, à court terme, ce sont des effets bénéfiques. À long terme...
Voilà.
Après, il y a d'autres changements qui se passent. Mais, de manière générale, c'est bénéfique.
Voilà. Nous avons une troisième question de Laure.
Oui, bonjour. Alors, dans les sciences comme dans les arts, quelles sont nos meilleures ressources pour lutter contre les effets du temps ?
Camille Chamou, je sens que vous avez envie de répondre à ça.
Elle a dit dans les arts, la dame. Donc, dans les sciences et dans les arts. Non, tout à l'heure, il y avait, pour répondre à cette question, Il y a quelque chose que vous avez dit, Isabelle, tout à l'heure, c'est que le facteur principal qui permet d'analyser la bonne santé, la vitalité de quelqu'un, c'est l'énergie qu'il dégage ou qu'il ressent. Enfin, quand on dit « j'ai pas d'énergie, j'ai peu d'énergie, j'ai beaucoup d'énergie ». Alors déjà, l'expression de soi-même, la tentative de s'exprimer, alors j'imagine que c'est exactement la même chose en peinture qu'en écriture, et c'est décuplé évidemment quand c'est sur scène. C'est une tension entre soi et les individus, puisqu'on exprime quelque chose à quelqu'un. Donc quand on est artiste, on produit quelque chose pour que quelqu'un l'entende, même une personne. Mais si Dieu veut, plusieurs. Et donc, du coup, dans cette tension, moi, je trouve qu'il y a le phénomène de curiosité qu'on espère de la part de l'autre, mais qu'on a soi-même vis-à-vis de soi et des autres, quand on émet des points de vue artistiques, quoi. Et donc, dans cette tension, je trouve que, de toute façon, on reste connecté aux gens. Et dans la connexion qu'il y a à autrui, se produit un truc qui, à mon avis... Enfin, moi, j'ai l'impression que dans les arts, la spécificité, c'est que les gens aient de 7 à 97 ans, ou même 98, je veux dire, je n'exclus personne à l'écoute de cette antenne, 118, voilà. On crée quelque chose qui est de la proximité, et que de la proximité, de l'échange d'énergie, justement, naît une espèce de... Je dirais pas un rajeunissement, c'est pas la question, parce qu'en fait, on s'en fout de la jeunesse. C'est pas le problème, c'est la vitalité, en fait. Et quand Isabelle disait l'énergie, bah moi, c'est vrai que quand je suis sur scène, je prends une dose, et j'espère que j'en donne, d'énergie très forte. Et je me suis toujours dit, d'ailleurs, que je détestais ce compliment à la sortie de scène, quand les gens me disaient « Ah, vous avez vraiment une belle énergie !» J'étais là genre « Vous n'avez rien d'autre à dire sur le spectacle que la belle énergie ?» En fait, à partir d'aujourd'hui, grâce à Isabelle, je dirais « Mais merci !» Ça veut dire que donc j'ai une sorte de jeunesse éternelle, puisque j'ai une belle énergie. Donc voilà, ça je trouve que dans les arts, la tentative de l'expression de la tragédie humaine ou de autre chose, mais la tentative qu'on a de s'exprimer, c'est un facteur de vitalité. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais voilà.
Isabelle Adam.
Moi, ce que je trouve intéressant dans la question, c'est la question, le parallèle entre les arts et les sciences. C'est rigolo comme question. Ce qui compte avant tout, c'est l'envie. Avoir envie. On le sait dans les cohortes que l'on a, que l'on étudie, les gens qui sont plutôt en bonne santé. Mais alors, avoir envie, c'est avoir envie de jouer aux échecs aujourd'hui avec mon ami qui a 90 ans, alors que je marche pas très bien peut-être. Mais par exemple, il y a des musiciens hyper connus qui font des concertos virtuoses, ils ont plus de 80 ans. C'est l'envie, c'est juste ça.
Dans les arts et les sciences, il y a quelque chose d'assez similaire dans l'idée, je trouve, que dans les deux cas, on se retrouve face à une situation qui est un peu inconnue et dans laquelle on va essayer de tenter d'exprimer quelque chose qu'on ressent, qu'on perçoit, dont on a l'intuition, et on essaie de le dire à des gens qui, et comme disait Camille Chamou tout à l'heure, qui peut-être vont écouter. Ça donne un sentiment d'existence qui est assez puissant, et j'ai le sentiment, moi aussi, l'intuition, disons, que ça joue pour beaucoup dans le sentiment d'être jeune et vif et de faire fonctionner le cerveau.
Absolument.
Je vais vous faire écouter un petit son maintenant qui va déterminer quel est l'âge de votre oui. C'est un petit son que vous allez entendre. Si vous voulez, vous pouvez chacune votre tour dire top lorsque vous n'entendez plus rien. Et à ce moment-là, on saura quel âge a votre oui. Attention, le son, c'est maintenant.
Top.
C'était Isabelle Adair.
C'était agréable. Ah, il est horrible.
Moi, je suis larguée depuis longtemps.
Top.
En même temps, vous avez dit top toutes les deux.
Enfin, moi, j'ai pas dit, mais moi, j'ai
non, toi, t'as pas dit, tu l'entendais.
Oui.
Mais j'ai préféré arrêter parce que c'était vexant. Moi, ça faisait à peu près une minute que j'entendais plus rien du tout.
Donc j'ai avant ou après moi?
Je
crois. Bah non, parce que c'est le vieillissement de Louis. Attention, ah,
il est horrible en plus sur la fin. C'est très très dur.
Mais c'est dur à écouter ce truc.
Pour nous expliquer ce qu'on vient d'entendre, nous avons en direct au téléphone le docteur Alain Londéraud, ORL à l'hôpital Lariboisière et à l'Institut Hospitalo-Universitaire Reconnect, où il dirige une équipe de recherche sur les troubles de la perception auditive. Docteur, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le test qu'on vient de faire ?
Eh bien, bonjour. Le test que vous venez de faire, c'est facile. Vous avez entendu un petit clip sonore et vous avez noté qu'au début du clip, les sons étaient plutôt graves et à la fin, les sons étaient plutôt aigus. Et le vieillissement de l'oreille se fait plutôt par les fréquences aiguës. Donc si vous avez entendu longtemps le son, ça veut dire que vous êtes capable d'entendre les fréquences aiguës pendant longtemps et donc que vous êtes probablement jeune. Si vous n'avez entendu que le début du clip, essentiellement les fréquences graves, et que très vite vous n'avez plus rien entendu, c'est que vous avez perdu la capacité d'entendre les fréquences les plus aiguës, et donc que vous êtes un peu âgé comme moi, parce que moi je n'ai entendu que quelques secondes, pas beaucoup plus. C'est très triste que vous venez de me faire vivre.
Ouais, j'ai ressenti à peu près la même chose que vous, alors ne vous inquiétez pas. J'imagine que ce genre d'âge, oui, c'est lié probablement à ce qu'on a vécu aussi dans notre vie, peut-être qu'on a écouté des sons trop forts, mais ça peut être génétique aussi ou...
Il y a un socle génétique, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous la même audition au même âge, et le socle de ça, c'est la génétique. Hein. C'est un peu comme pour les cheveux, par exemple. À 50 ou 60 ans, tout le monde n'a pas le même nombre de cheveux. Certains sont chauves, certains ne le sont pas, certains ont les cheveux blancs, et d'autres ont les cheveux encore bien noirs ou blonds ou colorés, selon leur carnation. Par contre, sur ce socle génétique viennent s'ajouter bien sûr d'autres choses, en particulier les expositions sonores, qu'elles soient de loisirs, quand on s'expose à la musique, en particulier la musique amplifiée sans protection, ou quand, pendant le travail, sur son poste de travail, on va manipuler des objets bruyants, des tronçonneuses, des marteaux-piqueurs, ou que sais-je. Et ça vient constituer une agression sur le système auditif, en particulier sur l'oreille interne, vous savez, cet endroit où sont situées ces petites cellules qui nous font entendre, et les cellules sont très sensibles, très fragiles, et donc elles peuvent s'abîmer et ça va déclencher cette perte auditive qui est bien sûr plus importante en fonction de l'âge et du socle génétique.
Eh bien, merci beaucoup. Je vous annonce que c'est la fin de notre émission. C'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à vous, docteur Alain Londéraud. Merci à vous, Camille Chamou. Et si jamais les gens veulent vérifier que vous avez de l'énergie un petit peu en réserve,
c'est
vous
au théâtre de l'Atelier.
Voilà, au théâtre de l'Atelier.
À 19h à Paris. Et après, je suis en tournée tous les dimanches à 19h à Paris. Mais je suis aussi en tournée dans de nombreuses villes.
Vous pouvez regarder tout ça. Merci à vous, Isabelle Adair, pardon. Merci à vous, Lida Katsimpardi. Et merci beaucoup au public du studio 621 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Cédric Diallo, à la vidéo Achille Axnin et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec deux scientifiques et une invitée mystère pour une émission autour du langage des arbres. Tout de suite, après le journal, retrouvez Thomas Negadroff pour le grand face-à-face. Bonjour Thomas, de quoi allez-vous nous parler ce midi ?
Bonjour Christophe Galfard. On s'est rendu compte avec Gilles Finkelstein qu'on était presque sourds à vous écouter à midi, mais on vous a quand même écouté avec beaucoup de plaisir. À midi, on revient sur la condamnation à 5 ans de prison de Nicolas Sarkozy et nous interrogerons avec nos invités la prof de droit public Anne Levade et l'avocate pénaliste Marie Dauzet la notion de confiance dans la justice.